studio mobile, arrêtez du loin, ici et là, poum poum poum. Ça se déplace, ça se met. Ça se met sur le dos, dans la caisse. Ici. Et là. L'arrivée sera belle.
You got no clock, but many, many time, a little walk to walk, a hope and a good line.
Bonjour à toutes et à tous. Toujours sur Erdiwa depuis le village de Charins dans le cadre de la fête du circuit court, 3e édition. Deuxième table ronde, la forêt, ressources et enjeux, avec plusieurs intervenants et intervenantes autour de la table. On va commencer par Valérie Piou et Marion Laquet pour l'ONF. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai Quentin avec moi, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors Quentin, toi t'es quoi ? Citoyen de Charins ?
Eh ben, citoyen de Charins, mais aussi garde ONF sur le secteur de Luc en Diwat.
Jean-Baptiste Boyer pour Diwat.
Bonjour.
On va parler d'énergie. Et Gilbert David pour la LPO.
Tout à fait.
Bonjour également. Parce qu'on va aussi parler de qu'est-ce qui se passe dans cette forêt, qu'est-ce qu'on en fait, qui y vit, évidemment. Parler de la forêt ici, localement, cette forêt du Haut-Diwat précisément, comment elle se comporte, comment elle va, comment on l'exploite et comment on la traverse aussi. Est-ce que vous pourriez, au nom de l'ONF, nous lancer un peu, nous donner un peu le contexte, comment justement elle est cette forêt ici dans le Haut-Diwat ?
Oui, alors la première chose déjà, c'est que l'Office national des forêts donc, est gestionnaire des forêts publiques, donc des forêts publiques du Diwat, du Haut-Diwat. Donc ça regroupe les forêts domaniales qui appartiennent à l'État et les forêts communales. Le territoire français, en fait, c'est 32% de surface forestière. La Drôme, on monte déjà à plus de 50%. Et je pense que pour le Diwat, Haut-Diwat, on est plutôt entre 70 et 80% de peuplement forestier sur le territoire. Les forêts domaniales ici ne sont pas nées, contrairement à ailleurs en France, des anciennes forêts cléricales ou des forêts royales. Elles sont nées, on en a parlé tout à l'heure lors de la première table ronde, elles sont nées essentiellement du passage de la restauration des terrains en montagne. C'est-à-dire qu'il faut remonter à la fin du 19e, où du coup, effectivement, toutes nos montagnes sont pelées. On a beaucoup de périodes d'érosion. Enfin voilà, tous les orages provoquent de l'érosion, provoquent des chutes de blocs, provoquent des inondations en aval. Et du coup, ces inondations à répétition, alors bien sûr, c'est pas les inondations de Châtillon, de Die, où voilà, il faut aller sur la vallée du Rhône. Mais du coup, ces inondations à répétition dans les grandes villes, en fait, l'État oblige les eaux et forêts de l'époque à trouver des solutions pour endiguer ces problématiques. Voilà. Donc les solutions, elles ont été soulevées sur deux axes. D'abord, la gestion des ravins et des torrents. Donc en faisant pas mal d'ouvrages qu'on retrouve dans tous nos ravins en forêt, des seuils, des barrages en pierre sèche. Et puis la deuxième phase, ça a été effectivement de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait de ces zones complètement érodées, où du coup, effectivement, il y avait beaucoup de troupeaux et beaucoup de pâturages. Et à l'époque, on n'y est pas allé de main morte, puisqu'en fait, on a exproprié les propriétaires privés. Voilà. Et donc, nos forêts domaniales, ici dans le Haut-Diwat, elles sont nées de ces expropriations. Inutile de vous dire qu'à cette époque-là, les eaux et forêts n'étaient pas forcément les meilleurs amis avec les agriculteurs du secteur. Et du coup, les eaux et forêts ont embauché en fait les agriculteurs, toutes les familles qui étaient ici en fait pour planter. Et effectivement, planter une essence qui, il fallait trouver quelque chose qui résiste aux fortes chaleurs de l'été, aux sécheresses, au froid assez important l'hiver, aux gelées tardives. Une essence qui soit frugale, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ait des sols qui soient extrêmement riches. Et puis une essence qui supporte aussi le calcaire actif.
Et qui pousse vite.
Et qui puisse jouer son rôle de retenir nos sols, effectivement, assez rapidement. Et donc, à l'époque, c'est le pin noir d'Autriche qui a été, retenu voilà, pour reboiser un peu partout. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a des versants de montagne qui sont plantés en pin noir d'Autriche. Ce qui n'est effectivement pas le cas pour Charins. Voilà, donc Charins, c'est un peu particulier. Charins, d'abord, la forêt communale est pas très grande. Hein. Elle représente que 9% en fait, du territoire communal global, ce qui est peu par rapport à d'autres communes. Et il n'y a pas du tout de forêt domaniale. Voilà. Donc, effectivement, tout à l'heure, il a été dit qu'il n'y avait pas de pin noir sur Charins. Et voilà, à part de façon sporadique où effectivement les graines se sont dispersées et où on a une régénération spontanée. Mais sinon, il n'y a pas de peuplement de pin noir.
Et donc tout ça dû à une déprise agricole quand même au départ pour que ces zones érodées, elles n'étaient pas abandonnées en fait, a priori.
Ah non, du tout. À cette époque-là, on a de l'habitat. D'ailleurs, tout à l'heure, ça a été dit, hein, on retrouve de l'habitat, des ruines... des maisons, des restanques. Enfin voilà, on sent bien que l'ensemble du territoire était occupé par le monde agricole. Ça a vraiment été une volonté de l'État, en fait, de récupérer ces terres-là pour les reboiser et éviter les problèmes d'érosion.
Alors, si on faisait un focus sur la forêt de Charins...
Alors, en termes de foncier, le territoire communal de Charins se partage entre des parcelles qui appartiennent à la commune et des parcelles qui sont propriétés privées. La commune de Charins a fait, en début des années 2000, un gros travail de remembrement. Je ne sais pas s'il faut appeler ça remembrement, mais en tout cas, d'échange de propriétés de façon à simplifier le cadastre et à regrouper les parcelles. Donc effectivement, il y a eu des regroupements qui ont permis à des petites parcelles qui étaient privées et dont les gens ignoraient peut-être même où elles étaient, liées aux successions diverses, aux héritages. Et du coup, la commune est devenue aussi propriétaire d'un certain nombre de ces petites parcelles. Mais la surface de base de la forêt communale, elle est d'ailleurs plutôt sur les hauteurs, hein, puisque les zones basses étaient plutôt propriétés privées pour le secteur agricole.
Voilà, et donc Charins garde le choix des coupes d'affouage, etc. Ça, Quentin, peut-être
Oui, donc du coup, en fait, l'ONF est gestionnaire, mais la commune reste... c'est elle qui décide de ce qu'on fait dans les parcelles. Nous, en fait, en tant que garde ONF, on propose aux communes, du coup, tout ce qui est exploitation, entretien, travaux. Et après, c'est à la mairie de valider ou pas ces travaux-là, en fonction de son budget, en fonction de si toutefois elle a le même esprit que nous d'entretenir la forêt, en fait.
Et ce qui n'est pas le cas dans toutes les autres communes.
Si, dans toutes les communes. Enfin, chaque commune qui a une forêt communale, c'est exactement le même cas.
En termes d'exploitation, justement, de cette forêt, par quoi on est passé? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Du coup, dans la forêt de Charins, c'est surtout... Donc, je parle pour la forêt communale, c'est surtout du hêtre. Donc là, c'est principalement du bois de chauffage. Vu la localisation de la parcelle communale, elle est assez pentue. Donc là, c'est exploitation traditionnelle, donc bûcheron et tracteur forestier. Chez les privés, c'est principalement du pin sylvestre de qualité plutôt médiocre qui sert principalement à faire tout ce qui est du bois énergie. Donc là, pour alimenter des chaufferies, pour alimenter des papeteries telles que Tarascon. Voilà. Et après, c'est pour tout ce qui est bois de chauffage, pour les habitants, pour les propriétaires.
Oui, voilà, vous avez quand même pas mal de coupes qui servent uniques, enfin qui restent en local, qui ne sont pas revendues et qui servent en bois de chauffe pour le village.
Oui. Après, la commune peut faire souhait de demander des affouages. Donc nous, gardes forestiers, nous allons marquer les affouages en fonction du volume que veut chaque habitant. Et puis... Soit l'habitant vient couper son bois parce qu'il est équipé pour, soit on fait venir des petits exploitants qui font des petits chantiers et du coup la mairie les paye pour cette prestation.
Jean-Baptiste, un petit mot sur l'énergie de ton point de vue évidemment et puis de Diwat, comment vous voyez ça? Quelle est votre participation éventuelle et votre travail avec l'ONF s'il y en a?
Pour l'instant, il n'y en a pas encore vraiment, mais peut-être dans les années à venir. peut-être dire rapidement, nous, en tant que coopérative d'énergie sur la vallée de la Drôme, on a une part de l'activité qui est de chauffer des bâtiments à partir de ressources bois ou d'autres chaleurs renouvelables, typiquement du solaire thermique, sur le bois. Donc nous, on chauffe des bâtiments. On essaye, quand techniquement c'est pas impossible, en gros, que ce soit plutôt de la plaquette forestière, histoire d'avoir un lien très court en fait entre les forêts qui peuvent être, enfin qui sont locales forcément, et la chaufferie. Les ordres de grandeur, hein, c'est plutôt 30 à 50 km, enfin voilà, grosso modo. Donc ça, c'est pour ce qu'on fait nous. Et après, peut-être se dire, nous, c'est beaucoup une réflexion de transition énergétique en lien avec la lutte contre le réchauffement climatique. Et du coup, il faut voir qu'aujourd'hui, on demande quand même de fait beaucoup à la forêt. Je parle même pas de ce qui n'est pas... ce qui n'est pas voir la forêt comme une ressource. Hein. Tout à l'heure, on parlera, je pense, de biodiversité, etc. Enfin, c'est pas des notions de ressources, mais déjà, rien que sur quel service la forêt peut rendre, aujourd'hui, on lui demande beaucoup pour la transition, puisque aujourd'hui, c'est à la fois un stock de carbone, que ça soit dans les parties aériennes ou dans les sols. Donc, on lui demande de jouer ce rôle de puits de carbone, enfin, de stock et de puits de carbone. Et puis, dans les scénarios de transition, il y a le fait d'aller mobiliser du bois pour faire des matériaux de construction et utiliser du bois qui va être, du coup, moins émetteur de carbone que d'autres matériaux type béton, etc., où du coup, on va réduire l'empreinte carbone de la construction. Et enfin, il y a aussi tout le bois énergie où là, on va attendre un gain carbone du fait de la substitution de chaufferies fossiles, enfin de matières fossiles qu'aujourd'hui, en gros, des chaudières fuel ou gaz qui équipent beaucoup de logements ou beaucoup de collectifs, etc. Et donc, nous, on travaille plutôt sur la dernière partie qui est la substitution des énergies fossiles par du bois énergie, sachant que, grosso modo, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de bois bûche qui est fait sur le Diwa, et c'est, je pense, la première façon de consommer de l'énergie bois localement. C'est souvent mis dans la même catégorie, c'est-à-dire c'est bois énergie, bois industrie, et donc c'est la même catégorie un peu de peuplement, on va dire, qui part à Tarascon, en papeterie, etc. Je crois que j'avais regardé un peu des chiffres, c'était... je crois deux tiers, c'est le bois bûche, et un tiers, c'est ce qui part en papeterie, quoi, grosso modo. Et donc, il y a bien un sujet qui est déjà de réduire ses consommations, et donc toute la rénovation des différents bâtiments, parce que c'est un des gros usages de chaleur quand même, ça va... Je vais pas dire commencer par là, parce qu'en fait, on est dans un état où on est un peu obligé de faire tout ce qu'on peut assez rapidement, en fait. Mais du coup, il y a vraiment cette action à mener de réduire les consommations, et il y a une action de substituer ce qui est substituable par du bois énergie, sachant qu'il y a d'autres façons de se chauffer aussi, hein, mais le bois énergie joue vraiment un rôle, notamment, on imagine pas mal qu'il y a plein de logements qui peuvent se chauffer de façon individuelle au bois, potentiellement avec du bois bûche, et alors quand c'est dans des... Quand c'est dans des foyers qui ne sont pas forcément très performants, c'est aussi assez dommageable d'un point de vue rendement énergétique, qualité de l'air, etc. Et donc globalement, c'est des scénarios, scénarios de transition, sont plutôt une diminution du chauffage résidentiel type bois-bûche, etc. Et plutôt la montée en puissance des réseaux de chaleur sur lesquels on peut avoir des chaufferies assez efficaces qui vont du coup brûler de la plaquette forestière locale, quoi. Et donc, en gros, ça passe par en gros, l'amélioration de rendement. Et il y a un sujet qui est quand même assez important, c'est la façon dont c'est exploité. Ça a été montré que l'empreinte carbone du bois énergie, c'est pas une empreinte carbone zéro, ça peut être renouvelable, en fait, ça a une empreinte carbone de le faire. C'est plutôt moins que le pétrole, mais ça a quand même une empreinte carbone. En fait, c'est beaucoup lié à l'exploitation qu'on en fait. Et donc, plus on va avoir une exploitation, c'est un terme pas consacré, mais douce, on va dire, moins on va avoir, en gros, de rejet de carbone lié au sol, quoi. Voilà. Et donc, c'est vraiment pas simple comme sujet. Et encore une fois, rien que sur la partie la forêt comme une ressource, qui n'est pas que ça, encore une fois. Du coup, il y a un vrai sujet filière forêt dans son ensemble. On en demande beaucoup à cette forêt et c'est pas toujours simple de savoir ce qui doit en être, surtout dans des perspectives de changement climatique où y a potentiellement des dépérissements accélérés de forêts. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce bois? Enfin, voilà, est-ce qu'on le sort, est-ce qu'on le sort pas? Enfin, il y a plein de questions là-dessus.
Marion, pour une réaction.
Oui, du coup, je voudrais juste compléter ce qu'a dit Quentin par rapport au choix d'exploitation et aux travaux qui pourraient être faits donc, dans ces forêts communales. Donc nous, on s'appuie aussi sur un document d'aménagement, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer des coupes parce que on sait que la forêt est aussi une ressource. C'est-à-dire qu'on va... Donc ce document d'aménagement présente l'ensemble des fonctionnalités de la forêt, la multifonctionnalité de la forêt. C'est une trame du coup sur laquelle on va s'appuyer et qui est validée avec la commune pour 20 ans. Donc pour une période assez longue. Et ce document donc est construit en partenariat donc avec les communes et il est validé par la commune pour un certain nombre d'années. Et donc du coup on propose après les années suivantes ce qui a été déjà validé un petit peu en amont. Donc on fait pas non plus ce qu'on veut dans le sens où on va pas se dire que effectivement il y a une parcelle qui est intéressante parce que on a du bois de chauffage, on a une potentialité. Si le document d'aménagement ne prévoit pas forcément une exploitation dans les prochaines années, ben on va pas forcément y aller quoi. Voilà, c'était juste une précision par rapport à ce qu'a dit Quentin.
Il ne faut pas oublier que le moteur qui anime tout forestier, en fait, c'est le renouvellement permanent de cette forêt. C'est-à-dire qu'on ne travaille jamais pour nous, on travaille pour les générations futures. Et quand on nous confie la gestion d'une forêt publique à un instant T, quand on rendra les clés de cette forêt, ce sera toujours de la forêt. Voilà. C'est ce qu'on s'applique à mettre en œuvre au quotidien.
Pas de coupe rase. Mais encore, peut-être, ça réagit. Enfin, en tout cas, ici, on n'en voit pas trop. Du coup, on a envie de se poser la question, est-ce qu'elle va bien, la forêt d'ici? Gilbert, tiens, pour la LPO.
Je voudrais préciser deux, trois trucs déjà au départ. L'essence la plus représentée dans les forêts de la Drôme, c'est le pin sylvestre, et de très loin. Là, j'ai un petit graphique. Le chêne pubescent est à 2/3 des surfaces du pin sylvestre, et le pin noir, c'est 1/4. Donc voilà, c'est pour déjà relativiser un peu les choses. Ça, c'est un document qui a été fait par la DDA de l'époque avec l'ONF. Je pense que c'est approuvé par tout le monde. Je voulais simplement aussi dire que dans les années, début des années 1900, le DIWA, c'était en grande partie comme ça, quoi. Ça, c'est aussi un document ONF.
C'est-à-dire donc pelé.
Très pelé, voilà. Simplement aussi préciser que la forêt n'est pas que des arbres. C'est aussi toute la biodiversité qui va avec, des mycorhizes, des champignons, des microbes qui ne sont pas tous négatifs. Et aussi toute la faune aviaire, donc autant les oiseaux que les chauves-souris. Et aussi donc tous les mammifères. Mais donc les mammifères représentent un très faible pourcentage. La faune qui est la plus représentée, c'est les insectes. Les insectes représentent à peu près les 3/4 de la faune forestière. Mais c'est valable un peu partout. Dans le sol, le puits de carbone représente 80% de la captation du carbone, c'est dans le sol. Alors, lorsqu'on exploite une forêt, on remue un peu ces terres, cet humus, et ça relargue du CO2. On a besoin d'utiliser la forêt, mais il faut bien savoir que la forêt n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin de la forêt. Donc il faut l'exploiter parce qu'on en a besoin. C'est pas pour son bien. Au contraire, moins on l'exploite, mieux elle se porte. Ça me paraît une évidence pour moi, mais c'est pas évident pour tout le monde. On dit qu'il faut exploiter parce que ça lui fait du bien. C'est pas vrai. N'importe. Moi, ce que je propose depuis des très nombreuses années, c'est de laisser tranquille 30% de la forêt. sans exploitation, en libre évolution. Et c'est cette portion-là qui captera le plus de carbone, qui le fixera le plus dans le sol, et pour beaucoup plus longtemps. J'ai un petit graphique là, qui, alors à la radio, ça passe pas très bien. Hein.
J'allais le dire.
Sur ce graphique, quand on exploite une forêt, on enlève à peu près tout ce qui est dépérissant, tout ce qui peut faire la richesse du sol, la captation, et puis la biodiversité, ça se passe là-dedans, dans ce qui n'est pas exploité. J'ai bien le sentiment que je passe pour le petit mauvais canard, là, mais
bon, pas forcément.
C'est exactement ce qui est prouvé par les scientifiques. Il faut savoir aussi que c'est la forêt française, la forêt du Diois, d'autant plus, c'est une forêt très, très jeune. C'est-à-dire qu'elle a moins de 100 ans. En moyenne, 80% de la forêt a moins de 100 ans. Alors, on ne parle pas du hêtre, bien sûr, ou la hêtraie sapinière, elle est en train de disparaître. Moi, j'ai été garde à Romeyer. On me demandait de couper tous les hêtres pour favoriser les sapins. Maintenant, si vous allez à Romeyer, vous verrez que tous les sapins sont pratiquement morts. Le réchauffement climatique est passé par là. Le sapin est en train de disparaître. Le hêtre va disparaître aussi parce qu'il a besoin d'eau aussi. Mais dans un temps un peu plus tard, parce qu'il supporte plus la sécheresse que le sapin. Donc c'est une forêt très jeune. Les lapinerets, autant que les pins sylvestres, ont en moyenne, donc à 80%, hein, c'est pour moi qui le dis, c'est les statistiques, hein, l'IGN qui le précise. Donc une forêt, pour qu'elle ait vraiment ce nom de forêt, Francis Allais, donc c'est un grand scientifique aussi, forestier, prône qu'une forêt n'a le droit à s'appeler forêt qu'au bout de 700 ans. Donc vous voyez, on en a encore un peu long à y arriver. Voilà. C'est pour ça qu'il voudrait qu'on fasse une forêt, un retour d'une forêt primaire, mais en Europe, sur 70 000 hectares. Mais ça, c'est très difficile à faire. Voilà, c'est juste pour préciser un peu ces choses-là. Moi, je parle plus de biodiversité que d'exploitation parce que c'est mon dada, quoi.
En fait, on ne peut pas oublier la multifonctionnalité de la forêt qui a été beaucoup rappelée par Jean-Baptiste. C'est que, en fait, la forêt, elle a quand même trois grands rôles. Un rôle de protection, effectivement, de la biodiversité, des sols, de l'eau, de l'air. Et puis un rôle de production. Et Gilbert a raison, en fait... La forêt, elle n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de la forêt. Voilà. Et puis un rôle récréatif, parce que la forêt, elle accueille aussi les individus. Et on est de plus en plus nombreux à apprécier d'aller se promener en forêt. Et du coup, il faut aussi qu'elle soit accueillante, cette forêt. Donc, pour répondre à ces trois fonctions, effectivement, on ne peut pas mettre les choses... les unes contre les autres. Il faut avancer avec ces trois idées en tête. Et du coup, ce que dit Gilbert est vrai, le fait d'avoir des zones en libre évolution, le Diois, pour le coup, on a quand même pas mal de surfaces en forêt publique dans lesquelles on ne met jamais les pieds. Et puis même si on voulait y aller, ce serait aujourd'hui extrêmement compliqué parce qu'en fait, la topographie de notre territoire est tellement compliquée que pour aller chercher du bois, il faut de la desserte. Et de la desserte, on est loin d'en avoir partout. C'est des coûts financiers assez monumentaux. Donc, naturellement, il y a une grosse, grosse partie de nos surfaces de forêt publique qui ne sont pas exploitées.
Et puis, il faut la protéger, cette forêt. Quentin, t'es pompier aussi ?
Non, pas du tout. Je suis, non plus.
Même pas.
Alors, via mon travail, je suis référent du coup DFCI, donc Défense des Feux contre les Incendies. Sur tout le Haut-Diois.
Ça consiste en quoi, dis-nous un peu.
Donc la DFCI, ça consiste à défendre les forêts contre les incendies via la création de dessertes pour que les pompiers puissent accéder à certains massifs, à créer des réserves d'eau, qu'elles soient naturelles ou artificielles, et puis se former aussi... nous forestiers en cas d'éventualité et aussi de faire de la prévention avec du public. Donc voilà, pour pour bien préserver notre forêt et ne pas d'avoir de feux liés à l'homme. Parce que bon, 90% des feux de forêt dans le Diois sont liés à la foudre. Malheureusement, la foudre, on ne peut pas avoir d'impact dessus. Par contre, les 10% restants, bah là, on peut essayer de faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que mes collègues et moi-même, on tourne des fois les week-ends pour faire de la prévention et puis surveiller nos massifs.
Donc là, auprès du public qui viendrait s'y promener, quoi.
Oui, par exemple. Ouais. Des promeneurs, randonneurs, vététistes, chasseurs.
Il y a toute une part aussi d'entretien, on en parle assez peu, mais même autour des communes qui sont faites des fois faites par des agriculteurs, mais des fois finalement par vous aussi, qui est un peu un tampon entre les villages et finalement la forêt.
Alors ça se fait peut-être plus dans le sud de la France. Nous, depuis cette année, on a des contrôles au niveau des obligations légales de débroussaillement. Alors du coup, en fait, c'est une loi qui date depuis 40 ans et qui dit que chaque propriétaire qui a un bâti à moins de 200 mètres d'un massif forestier doit débroussailler 50 mètres autour de chez lui, donc débroussailler, et si besoin, élaguer ou retirer quelques arbres, voilà, pour que en fait le feu de forêt n'aille pas vers les maisons et que le feu de maison n'aille pas en forêt. Voilà, en fait, c'est pour avoir une certaine coupure entre les habitations et la forêt. Et alors, c'est tout nouveau, nous, dans le Haut-Diois, ça a attaqué cette année. Néanmoins, ça fait des années qu'ils font ça dans le sud et on voit vraiment l'impact de ces OLD, en fait, les maisons qui résistent, qui arrivent à passer à travers le feu. C'est vrai que c'est du boulot. Nous, du coup, on est commissionné par la DDT pour faire des contrôles, des vérifications, pour faire de la pédagogie aussi par rapport à ça. Voilà, ça prend du temps, mais c'est quand même important de nos jours, quoi. Avec le réchauffement climatique, voilà, on préfère se préparer.
C'est bien de l'avoir dit. Ouais, Gilbert.
Sur le plan départemental de protection des forêts contre l'incendie de la Drôme, qui est valable encore jusqu'en 2026, à la page 132, il est précisé que 68% des feux démarrent à moins de 50 mètres d'une route de voie carrossable, que ce soit une piste ou une route. Et 70% des surfaces détruites le sont sur des feux éclos à moins de 50 mètres de ces routes-là. Donc le rédacteur dit les bordures des voies carrossables, que ce soit forestières ou pas, doivent être considérés comme des poudrières.
D'ailleurs, ici, quand il y a lutte contre un feu de forêt, c'est quel type de dispositif? On l'a vu quand il y a eu le feu à Romeyer, là, mais ça vient de loin. En fait, on n'est pas vraiment équipé en Drôme pour...
Non, on n'est pas forcément équipé. C'est surtout des pompiers du sud de la France qui nous prêtent main forte. Néanmoins, beaucoup de communes sont maintenant équipées de camions de feu sur la Drôme, voire quasiment toutes, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, c'est du gros dispositif. Donc c'est le SDIS qui chapeaute les opérations. Nous, en tant que forestiers, on peut venir prêter main forte pour la connaissance du terrain, savoir... quelle piste peut nous amener au feu, si elle est praticable ou pas par les camions de pompiers, si il n'y a pas un point noir. Donc un point noir, c'est une zone qu'on ne peut pas franchir avec des véhicules, par exemple sur une piste, une route forestière. On apporte notre aide par rapport à ça. Et après, par contre, c'est les pompiers qui enchaînent toutes les opérations, nous demandent des fois du soutien, typiquement les bûcherons qui ont été là pour le feu de Romeyer, pour faire des pare-feux, par exemple. On essaye de collaborer, de travailler ensemble le plus rapidement possible et au mieux possible pour préserver le plus de forêt possible.
Si on continue de filer sur le feu de Romeyer, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Faut replanter, comment c'est géré par l'ONF?
Alors la partie de Romeyer qui a brûlé, du coup c'est principalement de la forêt privée, voire même totalement. Ouais. Du coup là c'est aux propriétaires privés de prendre la décision. Nous en tant qu'ONF, s'il veut avoir un apport technique, on peut lui proposer. Mais à part ça, voilà, c'est à lui de prendre la décision, savoir ce qu'il veut faire. Après, Il y a, après des feux, des fois, les forêts repartent naturellement. Donc voilà, après...
Il faut laisser le temps au temps aussi.
C'est ça.
Ouais. Il ne faut pas trop se précipiter parce que la forêt est assez résiliente. Elle peut se reconstituer toute seule. Mon dicton, c'est une plantation, c'est une mauvaise gestion. C'est-à-dire que si on est obligé de planter, c'est qu'on a mal géré avant.
Gilbert qui s'emballe.
Là, ça a brûlé, Gilbert.
Oui, mais ça va repousser, il n'y a pas de problème.
Non, mais de la même façon qu'on on a abordé le sujet à la précédente table ronde, on a parlé de l'évolution de la forêt sur l'ensemble du territoire et sur les anciennes terres agricoles. Donc, en fait, la forêt, elle s'installe naturellement dès lors que les terres sont abandonnées. Et là, avec le passage du feu, c'est pareil. Ça va prendre un certain temps parce que, bien sûr, les températures ont fait que le sol a subi. Mais ça ne fait rien. Les graines, elles sont là. Les pins, ils sont à côté. Et voilà, ces graines-là, elles vont germer à un moment ou à un autre, quoi. Il faut laisser un peu de temps.
Ce qui a le plus trinqué, c'est les reptiles parce qu'ils n'ont pas pu se sauver. Ils ont pu se sauver un petit peu, mais il y en a beaucoup qui ont... J'y suis passé un peu après. C'est vrai que là, ça, c'est surtout les reptiles. Les autres, ils se reprendront... Enfin, ils se remettront assez rapidement, d'ailleurs. Ça va assez vite. Hein. Le reverdissement après l'incendie, ça, c'est... L'année d'après, déjà, il y avait de l'herbe qui poussait. Faut savoir aussi que la forêt qui a brûlé, ça fait des cendres, et ces cendres, elles sont fertiles. Donc ça se peut se reproduire assez rapidement.
Juste faire une remarque. Donc pendant la période de la restauration des terrains en montagne, on a planté des millions d'arbres. Est-ce qu'on peut considérer du coup que c'était une mauvaise gestion à ce moment-là, puisque aujourd'hui, ça nous a permis quand même de protéger des villages entiers de l'érosion et des chutes de blocs. Voilà.
C'était une mauvaise gestion avant.
Oui, non, mais du coup, on peut se poser la question. Est-ce qu'une plantation est réellement une mauvaise gestion?
En fait, en France, je vais prendre sur la globalité. En France, il y a le plan de relance qui prévoyait, notre président a dit, il faut planter 1 milliard d'arbres. C'est une aberration parce qu'en fait, on coupe des arbres pour planter des arbres qui sont moins bien adaptés. C'est-à-dire que je prends la forêt des Landes qui a brûlé. Le plan de relance a coupé des chênes pour planter des pins maritimes. Ça, c'est une aberration, quoi.
En fait, tout est une question d'équilibre dans le sens où on ne va pas nécessairement planter obligatoirement et systématiquement. On ne fait pas de systématique, justement. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de planter éventuellement pour avoir une diversité qui est augmentée. Après, il faut aussi laisser la dynamique naturelle se réinstaller sur certaines parcelles. Mais on peut, pourquoi pas, évitons de mettre les œufs dans le même panier, dans le sens où on va laisser la dynamique naturelle nous permettre d'avoir un bourrage, d'avoir déjà un sol qui est constitué naturellement, et agrémenter ça par des plantations par placeau, par exemple, pour justement avoir les deux, c'est-à-dire du naturel et du planté. Et si nos plantations ne fonctionnent pas, on aura quand même le naturel qui sera là et on aura toujours en fait notre surface qui est boisée et qui protège justement nos sols et l'eau, etc., et l'air.
Parce qu'elles n'arrivent pas là par hasard. Tout à l'heure, on a parlé de l'état de santé de nos forêts. Donc Gilbert, tu l'as très bien dit, la sapinière va très très mal. Et en fait, on se retrouve avec des peuplements effectivement de sapinières qui sont en train de dépérir complètement. Donc,
il y a beaucoup de choses qui poussent dessous.
Oui, il y a des choses qui arrivent, mais on n'est pas là en train de... Enfin, ce qu'on fait aujourd'hui en plantation, en termes de plan de relance, c'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Si on devait replanter ce qui a été planté au début du siècle dernier, on n'en aurait pas les moyens financiers, première chose. Ensuite, effectivement, ce n'est pas le but. Aujourd'hui, on a une ambiance forestière qui existe. Ce qu'a dit Marion est complètement vrai. On a une réaction naturelle de nos peuplements, et c'est très bien. Il faut compter là-dessus. Il faut surtout faire confiance à la nature. Les graines qui arrivent aujourd'hui ont forcément une capacité de résilience qui est autre que celle de la génération parent. Nous, aujourd'hui, on se retrouve donc dans des situations où la sapinière, notamment, est en plein dépérissement. On amène quelques zones de plantation, mais c'est des placeaux. Enfin, on parle de demi-hectare, de 1 hectare, de 2 hectares. C'est rien. Et l'idée, c'est effectivement d'amener des essences qui soient plus résistantes à ce qu'on propose aujourd'hui en termes de climat et en termes d'évolution climatique. De tout temps, la nature, les évolutions climatiques, elle en a connu, mais qui n'avait pas cette vitesse-là. Du coup, c'est sûr que la nature, là, il faut qu'elle réagisse plus rapidement à ce qu'on lui propose. Et donc, l'idée des plantations, c'est uniquement d'accompagner ce phénomène naturel. Donc, on amène effectivement des essences qui sont un peu plus méridionales, qui supportent un peu plus les fortes chaleurs et les fortes sécheresses. Mais on n'est pas non plus en train de révolutionner. L'idée, c'est de se dire que ces quelques plants qu'on apporte, une fois adultes, d'abord, il y en a un certain nombre. On diversifie les essences qu'on amène pour justement se laisser un maximum de chance sur les essences qui vont prendre et qui vont marcher. Parce qu'on ne sait pas, on n'est pas... Enfin, je pense que il y a un siècle en arrière, les forestiers se sont fait apprentis sorciers avec le pain noir. Nous, aujourd'hui, bien sûr, on a toutes les technologies qui nous permettent d'envisager quelles essences vont fonctionner écologiquement sur nos terrains. Mais malgré tout, il reste quand même un pourcentage de on suppose que. Donc il y a des essences qui ne marcheront pas dans ce qu'on plante, et puis il y en a qui vont marcher. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que celles qui vont marcher, une fois arrivées à l'âge adulte, vont être là pour disséminer de nouvelles graines un peu plus loin et amener encore plus de diversité. On n'est pas là pour planter à tout prix. L'idée, c'est un accompagnement de la nature, quoi.
Alors, j'ai un petit document aussi là, qui dit que 80% de la forêt plantée en France est représentée que par 7 essences. 7 essences, c'est pas grand-chose. Et 84% des plantations en France sont monospécifiques. Et pour moi, la monospécificité des choses, ça va vers la catastrophe. J'ai entendu une émission à la télé sur un forestier de la Lorraine. C'est la troisième fois que je plante au même endroit. C'est-à-dire que les deux fois avant, la plantation n'a pas marché. Alors je pense que c'est un peu jeter de l'argent par la fenêtre de faire des plantations de ce type-là. Les dépérissements, c'est souvent, pas toujours, mais souvent, sans parler du sapin, mais dans des plantations qui ont été faites d'épicéas qui ont pris des scolytes en plaine. L'épicéa, c'est fait pour être en montagne, pas en plaine.
Oui, mais dans le Haut-Diwa, on ne peut pas parler de ça comme type de peuplement.
Je parle dans l'ensemble de la France. Ça peut se faire aussi ponctuellement, ça se fait aussi dans le Diwa.
Ponctuellement, les plantations qu'on fait, je puis t'assurer qu'à 100%, elles ne sont jamais monospécifiques et qu'on fait toujours un mélange d'essence, que ce soit un mélange d'essence feuillus et résineux. Après, c'est ce que je dis. Enfin, il y a un certain nombre d'essences dont on ne sait pas. On ne sait pas si ça fonctionnera ou pas. Enfin, je veux dire, qui autour de cette table est capable de dire que n'importe quelle essence va réussir dans 10 ans, dans 20 ans avec l'évolution? D'abord, qui est capable de dire quelle va être l'évolution climatique qu'on va subir dans les années à venir? Quand on voit la vitesse et l'ampleur que ça prend, en fait, personne ne sait. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité.
Je crois qu'il faut quand même faire un peu confiance à la nature.
Ah mais complètement, mais c'est ce que je te dis. En fait, on fait complètement confiance à la nature. On ne fait que tenter un accompagnement, c'est tout. C'est une goutte d'eau dans l'océan, ce qu'on fait dans le Haut-Diwa. C'est rien du tout, en termes de plantation. Et surtout, sans monospécificité.
Est-ce qu'on va réussir à vous mettre d'accord?
Non.
Non, on le sait
qu'on n'est pas d'accord.
Il y a le côté interventionnisme et le côté protection.
Voilà, laisser faire ou intervenir un peu.
Je pense que c'est bien que ça sorte parce qu'en fait, on tournait un peu autour du pot du réchauffement climatique et que en fait, on ne sait pas ce que ça va devenir. Enfin voilà, on le maîtrise peu puisqu'effectivement, c'est nous, on doit faire notre part, etc. Mais de fait, c'est dépendant de plein de choses. Enfin, c'est pareil, je pense qu'il faut être très, très humble sur ce qu'on peut prédire, quoi. Mais genre, on voit quand même, même sorti de la forêt, que le réchauffement climatique, c'est aussi l'effondrement des écosystèmes et que et du coup de la perte de biodiversité au passage. Et donc se dire, en fait, on fait confiance à la nature, bah, on voit à certains endroits quand même que ça a ses limites, enfin, au sens où, oui, ça, il finira toujours par y avoir de la biodiversité, mais enfin, en attendant, c'est quand même beaucoup de pertes. Donc on voit aussi qu'on se prépare aussi à des futurs inhabitables potentiellement. Et du coup, c'est un peu dur de... Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut planter forcément des forêts, mais par contre, ça veut dire qu'il faut vraiment agir contre le réchauffement climatique et donc limiter ses émissions, se débarrasser du fossile, etc. Et faire pas mal de sobriété, quoi. C'est quand même, je pense, le premier facteur aujourd'hui en forêt, enfin, de changement, quoi. Enfin, je dirais... de très loin.
Cette évolution liée au changement climatique quand même impacte aussi, donc on le dit, cette forêt, impacte certaines essences. Voilà, il y a une grosse évolution biologique finalement qui est visible. Est-ce qu'effectivement, laisser complètement faire ne la verrait pas entièrement dépérir aussi ? Voilà, c'est un peu la question qu'on pourrait se poser de loin comme ça.
C'est beaucoup plus complexe que ça. Si on savait tout, on ferait moins de bêtises. Mais comme on ne sait pas tout, il vaut peut-être mieux faire confiance un peu à l'évolution naturelle des choses que d'essayer de faire des apports d'essence qui sont complètement exotiques, qui amènent d'autres maladies, hein, d'ailleurs. On a plein d'exemples comme ça, que ça apporte des maladies. Il y a eu des apports d'essence américaine qui ont amené d'autres maladies qui n'existaient pas en France, quoi.
Je peux évoquer aussi le sujet du chêne rouge d'Amérique, qui est une essence qui est très qui va rentrer en concurrence avec les autres espèces et qui va complètement aseptiser le sol, c'est-à-dire qu'on n'aura plus que du chêne rouge. Donc en fait, il faut être aussi méfiant, et c'est aussi notre rôle technique de réfléchir aux essences qu'on va mettre pour qu'on continue justement de pouvoir travailler avec différentes essences qui peuvent pousser ensemble. Mais pour ça, il faut connaître les comportements de chaque espèce, parce que chaque espèce a des comportements différents et elle ne poussera pas de la même manière. Si elle est avec une autre espèce ou si elle est de la même espèce. Enfin, il y a plein de mécanismes qu'il faut prendre en compte. Et ça, dans les plantations, si on veut de la diversité, il faut le prendre en compte dans nos schémas de plantation. Et du coup, réfléchir effectivement à ce qu'on va planter, notamment des espèces qui pourraient venir des États-Unis ou d'autres espèces un peu plus exotiques, quoi.
S'il faut des plantations, il vaut mieux prendre des plantations d'essences qui sont un peu plus méditerranéennes et pas les chercher ailleurs.
Oui, voilà, plus local.
Dans des endroits.
C'est ce qui est fait dans le coin.
À l'autre bout du monde.
C'est ce qui est fait complètement dans le Haut-Diois. On ne va pas chercher des essences à l'autre bout de la planète. Juste, je voudrais rajouter en fait que, dans la même idée de diversité des essences, dans nos peuplements de pins noirs qui arrivent à maturité aujourd'hui, en fait, on profite de tout ce que la nature veut bien nous amener. C'est-à-dire que sous nos peuplements matures de pins noirs, on voit arriver d'autres essences, des feuillus, des érables, des alisiers. Et en fait, aujourd'hui, contrairement peut-être à il y a quelques décennies en arrière, la réaction du forestier, ce n'est pas de dire « je vais sabrer tout ce qui pousse en dessous pour garder mes pins noirs, parce que les pins noirs, c'est des arbres bien droits dont on arrivera à faire quelque chose ». D'ailleurs, on pourra aborder le sujet un peu après. Mais du coup, c'est bien de profiter de tout ce que la nature nous propose, quoi. Voilà. Donc, et du coup, de se diriger le plus possible vers de la diversité.
Eh ben allez, alors qu'est-ce qu'on en fait de ces bains noirs bien droits ? Parce qu'en fait, on construit rien avec, on n'arrive pas à aller les chercher.
Eh ben justement, en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que le marché du sillage est beaucoup porté sur le sapin, hein, comme bois de charpente et voilà, de construction. Et notre pin noir, en fait, on lui fait beaucoup le reproche de notamment son poids, quoi, puisqu'on est à une tonne au mètre cube. Et effectivement, aujourd'hui, avec ce dépérissement massif de nos sapinières, je considère qu'il y a une réelle question à se poser. C'est le jour où on n'a plus cette matière première pour le bois de construction en sapin. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à prendre le tournant, le virage de utiliser davantage le pin noir ? Le jour où on va se réveiller en se disant le pin noir, on aurait pu en faire autre chose que du 2 mètres papier direction Tarascon, ce sera peut-être trop tard, parce qu'en fait, nos peuplements de pin noir, on les aura renouvelés et on aura déjà récolté en fait les arbres matures. C'est dommage.
Mais pourquoi alors on ne l'exploite pas ? C'est juste pour une question de poids.
On l'exploite, mais voilà, c'est un bois qui est lourd. Ben oui, mais à monter sur les toits, c'est pas simple. Et c'est un bois qui bouge aussi beaucoup. Donc voilà, du coup, il sèche doucement. Et voilà. Donc il a effectivement quelques inconvénients. Néanmoins, il a des qualités techniques qui sont intéressantes, mécaniques qui sont intéressantes. Et voilà, pour tout dire, il y a eu des essais de fait il y a quelques années en arrière, notamment sur, avec une scierie à marche sur la construction du gymnase et à Heure, là, du centre l'Écosite, donc avec des pins noirs du Haut-Diois, de Châtillon, pour pas le nommer. Et voilà, ça fonctionne très bien. Voilà.
Oui, c'est ça ce que j'allais dire, il faut faire des très grosses structures, du coup.
Mais oui, mais du coup, voilà, il manque un peu une volonté. Voilà, tant qu'on a du sapin, je pense que bah, du coup, on regarde pas notre pin noir.
Le Vercors, on a encore, ça va.
Est-ce que le public a eu des questions? Ça pourrait.
Oui, moi je voudrais parler du bois énergie parce que souvent tout ce qui n'est pas utilisé comme bois d'œuvre, ça devrait rester sur le sol et il y a des endroits où on récupère tout pour faire du bois énergie. Et ça, je trouve que c'est une catastrophe complète parce que le sol, il a besoin d'être nourri par toutes les branches et tout ce qui tombe et les feuilles et les épines. Et il y a des endroits où tout est raclé dans la forêt pour faire du bois énergie. Alors, je ne sais pas si au niveau de 10 watts, vous utilisez ce genre d'énergie pour faire des plaquettes, mais je sais qu'il y a des endroits où ça se fait.
Alors, en forêt publique, on a le droit, une fois dans la vie du peuplement, effectivement, de récolter l'ensemble de la tige quand il y a une coupe de bois. Mais c'est une fois dans la vie du peuplement.
Oui, il faut savoir que c'est dans ce qu'on appelle les rémanents, c'est les restes d'exploitation, où il y a le plus de nourriture pour le sol. Si on enlève ça, c'est comme si on enlevait l'engrais de la forêt, quoi.
Voilà, donc on coupe les arbres, mais on laisse toutes les feuilles, toutes les branches.
Absolument.
Sur place.
Voilà, on a un diamètre minimum, en fait, qui est vendu. Enfin, en tout cas, en forêt publique, lorsqu'on vend une coupe sur pied, la tige qui est vendue, ça va jusqu'à un certain diamètre minimum. Au-delà, en fait, le restant du bois reste sur la coupe et va pourrir lentement. Et donc, effectivement, amender le sol.
Juste le type de coupe où, du coup, on récupère tout le bois. C'est souvent des coupes pour tout ce qui est réouverture d'alpage. Voilà, donc souvent, c'est fait dans des forêts privées parce que c'est des agriculteurs qui ont des forêts et au final, ils ont besoin de champs. Et voilà, et en fait, ils coupent un certain nombre de pins tout en gardant pour l'ombrage des bêtes. Mais au moins que tout ce qui est l'herbe puisse revenir. Voilà, je sais qu'il y a eu des coupes comme ça sur Charins. Mais après, voilà, c'est vraiment spécifique au pâturage et à l'élevage de bétail.
C'est de la réouverture de milieu en fait, qui s'est refermée naturellement avec ces peuplements de pins qui colonisent.
Et du coup, juste qu'on était interpellé, je vais dire, je ne sais pas... Pas plus que ce qui a pu être évoqué sur... voilà, nous, on achète de la plaquette qui est déjà broyée pour l'instant, alors qui est fait en local. Voilà, après, dire que le truc est exemplaire, là, aujourd'hui, je ne saurais pas le dire. Mais c'est aussi pour ça qu'on plaide pour qu'il y ait un maximum d'encadrement de l'exploitation forestière, parce que potentiellement, en forêt publique, c'est bien fait. Mais on l'a vu, en forêt privée, ça peut ou comme ça peut ne pas. Et il y a un vrai morcellement de la forêt en plein de petits propriétaires et du coup c'est pas toujours simple d'exploiter, d'avoir des coûts de production aussi qui sont bons, etc. Et donc je reviens sur l'idée que effectivement pour avoir un mieux carbone, il faut une exploitation aussi qui soit relativement douce, et donc typiquement je pense que ce genre de pratique y contribue. Juste pour dire aussi une chose, c'est qu'on peut travailler là avec la communauté de communes du Diois qui essaye de faire avancer un projet de plateforme de transformation de bois, de broyage de plaquettes forestières. Et du coup, nous, on est aussi un peu associés à la démarche parce que tout ce qui va pouvoir contribuer à avoir une filière la plus courte possible et où du coup, on va plus facilement... avoir l'information sur ce qui se passe et ce qui se passe entre l'arbre et la chaudière, au mieux on sera sûr. Au mieux ce sera, on va dire, et on sera sûr de faire le moins de bêtises possible, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème qui est relevé, la forêt publique, forêt privée ?
Alors, en fait, il faut savoir qu'en France, la forêt publique représente le quart de la surface de la forêt en France. Donc, les trois quarts de la forêt, c'est donc de la forêt privée qui appartient à 3,5 millions de propriétaires. Donc, sur 17,5 millions d'hectares de forêt, il y en a donc le quart de public et tout le restant est privé. Donc, la forêt privée, c'est très compliqué. Et le foncier de la forêt privée, d'autant plus compliqué qu'on passe d'héritage en héritage, du coup, de division. Enfin, voilà. Donc, c'est extrêmement compliqué. Néanmoins, la forêt privée donc, a son pendant de la forêt publique en termes de gestion. Il existe donc le Centre national de la propriété forestière qui est là pour accompagner les propriétaires forestiers dans la gestion de leur patrimoine forestier et qui est là pour les aider aussi à la rédaction, tout comme Marion en a parlé tout à l'heure, de l'aménagement forestier, qui est là pour, qui est notre guide, en fait, pour 20 ans sur les modalités de gestion d'une forêt, en accord avec les propriétaires, si c'est des forêts communales. Il y a la même chose qui s'appelle le plan simple de gestion pour la forêt privée, à partir d'un certain seuil qui est de 20 hectares, si je dis 25 hectares. Voilà. 25 hectares, un propriétaire se doit d'avoir un document de gestion, justement, qui va du coup caler aussi une programmation de travaux, une programmation de coupe pour rendre cette forêt durable.
Voilà, donc on peut a priori pas faire n'importe quoi dans le privé.
Ah non plus.
Une autre question peut-être dans le public, si vous avez. Sinon.
Sinon, je voudrais peut-être faire une petite précision sur la biodiversité qui évolue dans les forêts. Nous, en fait, depuis la LPO, fait depuis plus de 40 ans des relevés ornitho sur des points précis avec un programme très précis et avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et on a déjà un recul quand même assez conséquent de ces relevés. Et on a pu sortir des tendances d'évolution des espèces. C'est ainsi qu'on s'est aperçu que le grimpeau des jardins a perdu 27% de ses effectifs. Le roitelet triple bandé, c'est 67%. Alors que le piquet-pêche, c'est plus 29%. Le pouillot siffleur, qui est une espèce un peu forestière dans les hêtraies, donc on devrait le trouver ici aussi, lui, il est à peu près stable, enfin, il a plus de 10%. Par contre, il y a d'autres espèces encore qui sont plus problématiques, comme le bouvreuil pivoine qui a perdu 40% de ses effectifs, la mésange nonnette c'est 30%, enfin voilà. Il y a des espèces donc, qui sont en augmentation parce qu'ils sont plus adaptés ce sont des espèces un peu plus méditerranéennes qui remontent et qui augmentent, et toutes les espèces qui sont plus nordiques diminuent et remontent vers le nord aussi. Donc on voit déjà cette évolution qui est très marquée hein, pour certaines espèces. Comme la citelle, par exemple, elle a perdu la moitié de ses effectifs. Quoi. C'est une espèce qui est très courante au départ. Voilà, donc c'est pour montrer aussi que y en a qui sont des climato-sceptiques. Là, on peut savoir, par des chiffrages très précis qu'on fait depuis beaucoup d'années, on voit aussi comme l'évolution des sapins et tout ça. Mais je ne comprends pas qu'on puisse encore mettre en cause le réchauffement climatique.
Est-ce que c'est une conclusion à cette table ronde ?
Moi, je reviendrai bien quand même sur nos forêts et dire que, en fait, la forêt qui correspond le mieux et qui rentre dans l'évolution qu'on observe aujourd'hui, c'est une forêt qui, effectivement, présente des endroits où on est en libre évolution, où on laisse évoluer naturellement les peuplements. Des zones où on va cultiver la forêt parce qu'on en a besoin, on l'a dit tout à l'heure, enfin en fait on en a besoin au quotidien. Voilà, des zones où on va renouveler cette forêt, des zones pleines de jeunesse. Des peuplements qui poussent vont aussi capter beaucoup plus de carbone à l'hectare parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils poussent à grande vitesse.
Après, on a effectivement tous nos peuplements sénescents qu'il faut conserver et qui, eux, sont des vrais réservoirs, en fait, de carbone. Voilà, une forêt qu'on exploite, mais dont on va faire du bois de construction, qu'on va maintenir pendant 50, 100, 150 ans, bah, c'est autant de carbone qui est stocké. Donc voilà, donc la forêt, c'est la multifonctionnalité et puis une forêt mosaïque, en fait. C'est un patchwork, en fait, et dont il faut réussir à conserver l'équilibre.
C'est à peu près ce que j'ai dit au départ, hein, que nous, on a besoin de la forêt. Donc, c'est pour ça que l'ALPO et puis d'autres, hein, le GIEC, que vous connaissez sans doute, préconise aussi 30% de libre évolution dans les forêts.
Et finalement, on n'est pas si mal loti ici dans le Diois, on remarque.
On est plutôt pas mal.
Merci Marion, merci Valérie, merci Quentin, merci Jean-Baptiste, merci Gilbert. Merci.
Au revoir.
Cette émission et la précédente seront à retrouver sur le site internet de RDIWA, rdwa.fr, pour ceux qui veulent les réécouter et analyser tout ce qui a été dit. Belle journée à tous.
Mobile Studio.
Studio Mobile, Radio Diwa, ici et là, pour tout le monde.